Comment fait-on pour passer d'une start-up à une entreprise valorisée à plus d'un milliard en moins de 3 ans? C'est ce que t'explique notre invité du jour en racontant ses débuts et l'ascension fulgurante de son entreprise. Jonathan Angelov crée Aircall en 2014 avec l'aide de ses 3 associés. Ils ont eu l'ambition de créer un système de téléphonie facile à utiliser et à intégrer à tous les outils métiers des entreprises. Avec plus de 15 clients à travers le monde, Aircall innove dans le domaine de la téléphonie et des call centers. En 2022, Aircall rejoint le cercle très fermé des Centaurs en dépassant les 100 millions de dollars de revenus annuels. Tu le sais peut-être, mais chez Paradox, nous sommes en pleine phase de scaling et cette conversation nous a beaucoup aidé pour avancer. Nous sommes convaincus qu'elle te sera aussi utile pour réussir une traction exceptionnelle. Dans cette interview scindée en 2 parties, on parle des défis rencontrés par Aircall et comment ils ont su les surmonter. Et tu verras que leurs débuts n'ont pas été de tout repos. Ils te dévoilent le moteur qui tourne dans son bide, pour reprendre l'expression de Marc Simoncini, cet événement qui est à l'origine de sa performance. On a été séduit par son enthousiasme et impressionné par sa façon de transformer ses expériences difficiles en une véritable force de motivation. Alors si tu souhaites avoir des clés pour booster la croissance de ton entreprise, cet épisode est fait pour toi. Bonne écoute.
J'ai une maman qui a grandi dans le communisme, en Bulgarie, qui a eu une vie très difficile, qui a immigré en France. Et en fait, du coup, c'est la vie à la dure et elle me disait pas qu'elle était fière. En fait, elle voyait que le mauvais en moi. Peut-être c'était pour me tirer vers le haut, peut-être pas, mais en tout cas... Elle m'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Jamais. Nos relations étaient très difficiles. Elle était très difficile. Elle avait beaucoup de problèmes, ma maman. Problèmes d'alcool. Ça a été très difficile. Quand elle est décédée, j'ai vidé l'appartement et j'ai retrouvé des petites pochettes en plastique avec tous les articles de journaux qui me mentionnaient, les photos d'articles qu'elle avait découpées soigneusement et qui étaient là. Ah, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que, tu vois, j'avais juste envie qu'elle me dise qu'elle m'aime, en fait. Et là, je l'ai vue. Mais c'était trop tard. Parce que, tu vois, j'aurais aimé la serrer dans mes bras à ce moment-là. J'aurais aimé lui dire « Maman, moi aussi, je suis fier de toi. Et tu vois, je sais que t'as pas eu la vie facile. Et moi non plus, j'ai pas eu la vie facile. Mais c'est pas grave. » Je pense souvent à elle et je me dis « Bah, tu vois, tout ça, j'espère que t'es fier pour moi. Et tout ça, je le fais un peu aussi pour toi. »
Salut Jonathan, je suis content d'être avec toi.
Salut.
Raconte-moi un petit peu ton parcours et comment t'en viens à créer Aircall. D'où tu pars et comment t'arrives à Aircall?
Je suis né à Paris, dans une famille plutôt modeste, avec une maman seulement. J'ai fait mes études, je me suis débrouillé un peu à cloche-pied pour passer les étapes et finalement finir dans une école de commerce qui est le SCP. Et en 2013, je rencontre mes associés, notamment Olivier, qui m'explique un peu ce qu'il a en tête, le projet. Et donc on se dit, il faut qu'on arrive à créer un système de téléphonie qui répond aux besoins des clients. En l'occurrence, de le mettre en place en quelques minutes. Pas besoin de techniciens, pas besoin de complexité. Et donc... de pouvoir également l'intégrer, vu que c'est un logiciel, de l'intégrer à tous les outils métiers que l'entreprise utilise déjà. On est parti avec cette ambition en se disant qu'on va y arriver et faire des grandes choses. Et c'est vrai que 7 ans plus tard, c'est un peu un rêve. On se retrouve avec plus de 500 salariés sur pratiquement tous les continents, en tout cas États-Unis, Europe et Asie-Pacifique, Océanie. Et c'est un rêve éveillé, en fait, qu'on vit. Surtout pour un jeune comme moi qui vient d'un milieu assez modeste, voire très, très modeste. De vivre ça, c'est juste une expérience exceptionnelle. Et donc, on s'accroche à ça. Je m'accroche personnellement à ça comme à la lune. Et on ira jusqu'au bout des choses. Et on va essayer de rendre la France fière de nous, des entrepreneurs qui partent aux États-Unis, qui partent très tôt à l'étranger pour réussir.
Aide-moi à comprendre vite fait l'organigramme, là, aujourd'hui. Parce que COO... ça a plein de définitions différentes et il y a plein de manières d'être CEO. Mm. C'est quoi, toi, en fait, ta mission de CEO?
En fait, ça a pas mal évolué avec le temps. CEO, on l'a gardé, on va dire, au fil des années. C'est au début, tu crées la boîte, tu laisses. Aujourd'hui, mon rôle, c'est plutôt un rôle de general manager Europe et Asie-Pacifique, où en gros, je gère l'intégralité du business, de toute la partie revenus d'Aircall sur l'Europe et l'Asie-Pacifique.
C'est qui les gens qui te reportent? Quel département?
Tout le revenu européen et
Asie-Pacifique.
Marketing,
sales?
Sales, account management, partenariat, solution engineering, onboarding.
La partie relation.
Ouais, même le porting est sous moi, tu vois, c'est marrant. On a mis le porting sous une équipe customer success.
C'est quoi le porting?
La portabilité des numéros.
Ok.
Porter les numéros. Oui, Aircall, téléphonie d'entreprise. On doit porter des numéros souvent, puisque les clients viennent d'autres opérateurs. Et le general manager qui est en Asie-Pacifique, qui me reporte aussi directement. Donc en gros, j'ai 70% du revenu d'Aircall sous ma houlette. Et après, tu as un general manager qui a à peu près le même rôle que moi aux États-Unis, qui fait la même chose.
Et toi, dès le début, c'est défini que tu vas être sur la dimension sales et marketing?
Ouais, naturellement, hein, je suis allé dessus. Et puis de toute façon, au début, il faut bien vendre. On a vite compris qu'Olivier et moi, on avait des personnalités très différentes. Lui, c'est un ancien consultant qui a fait pas mal d'années au BCG, qui a drivé des grosses BU, des grosses business units de gros corporate, HEC, Ginette, brillantissime. Un gars brillantissime. C'est un parcours parfait, quoi. Il a fait la meilleure prépa de France, la meilleure école de France. Le parcours parfait. Et moi, le parcours très imparfait.
C'est fort, ça, lui, quand tu dis qu'il est brillant, c'est quoi, du coup, par rapport à la boîte?
Une intelligence émotionnelle, une structure très, très carrée, une capacité d'organisation qui est formidable. Et donc, on se complémentait beaucoup, quoi. Et lui, il était plutôt sur la partie produit. Et moi, j'étais plutôt, du coup, automatiquement sur la partie commerciale. Et c'est ce qui me plaisait, évidemment, même si j'adore la partie produit. Et on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. Et très naturellement, au début, on s'est séparé les choses comme ça. Mais j'avais mes deux associés qui sont deux techs.
Okay.
Qui eux étaient pour le coup sur la tech, un front, un back. Et donc on était quatre copains, bande de potes.
C'est pas courant, quatre associés, ça, c'est comment à gérer du coup?
C'était fou parce qu'en fait t'es déjà une mini-société et donc en fait c'est incroyable. Et en fait t'as une force de frappe qui est folle. Et aujourd'hui on a réussi ce qu'on est en train de faire actuellement grâce à ça. Et puis la force, c'est d'avoir deux associés tech. Souvent en fait les entrepreneurs là où ils galèrent, c'est ils n'arrivent pas à recruter la bonne personne. Ils n'arrivent pas à recruter quelqu'un technique, à le garder, etc. Et nous, en fait, on était associés. Donc, tu vois, quand on est parti très tôt, nous, on est parti très tôt aux États-Unis avec cette ambition d'un jour s'introduire en bourse au Nasdaq. Le rêve plutôt que l'ambition, le rêve.
Pourquoi? C'est quoi la différence que tu mets entre rêve et ambition?
Un rêve, c'est t'en rêves et tu te dis, on est en train de rêver là. mais t'as l'ambition en toi, mais on est en train de rêver quand même. Tu vois, il y a 7 ans, une IPO au Nasdaq...
C'est fou. Ouais.
Je le dis, mais j'y crois pas. En fait, on en commence à le voir, quoi. Je commence à entendre la cloche au loin qui sonne et je sais que ça va arriver. C'est le rêve qui devient réalité, en fait. Et donc, je vis les meilleures années de ma vie. Et mes associés aussi, on est en train de vivre les meilleures années de notre vie parce qu'on vit quelque chose auquel tu peux pas croire.
T'as démarré à quel âge, Aircall? T'avais quel âge?
26 ans.
26.
Ouais. Okay.
C'est quoi ton moteur? Il vient d'où?
Je pense que c'est mon histoire. J'ai grandi. Jusqu'à environ 13 ans, une vie à peu près normale avec ma maman, bon, mère célibataire, mais comme beaucoup de gens dans le monde. Et à 13 ans, un matin, les huissiers viennent. Ma mère avait tout perdu, elle s'est fait escroquer, elle a eu des problèmes dans tous les sens. Elle ne pouvait plus du tout payer ses traites. Les huissiers viennent à la maison, ouvrent la porte. Moi, j'étais en train de prendre le petit-déj. Et là, on me prend, on me dit, écoute, ta maman ne va plus pouvoir s'occuper de toi. Tu vas être placé en famille d'accueil, t'inquiète pas.
T'as quel tempérament à 13 ans?
Je suis un sale gosse, pas vraiment en crise d'adolescence parce que je j'ai pas l'impression d'avoir été en crise, mais je suis un gamin qui va à l'école, qui est pas le meilleur élève de l'école, mais qui s'en tire plutôt toujours pas trop mal, avec au-dessus de la moyenne, quoi.
Ouais. Le côté sales, c'est très fort chez toi. Est-ce qu'il est déjà en toi à ce moment-là?
Ouais, j'ai toujours été un vendeur. J'ai toujours vendu un truc. Non, mais c'est vrai. À l'école, je vendais mes billes, je les achetais moins cher, je les revendais plus cher, je disais qu'elles étaient exceptionnelles, etc. J'ai toujours été très vendeur, j'ai toujours été hyper commerçant. Je pense que tous mes profs qui m'entendent, qui me revoient, ils me disent « Jonathan, il y a un truc qui était particulier chez toi, c'est que tu négociais tout. Tu négociais tes notes. » C'est vrai que je négociais mes notes. Et quand je n'étais pas content de ma note, je dis « Je ne suis pas d'accord. Là. On va devoir reparler de cette note, ce n'est pas possible. » En général, on se souvient de moi. En bien et en mal, mais on se souvient de moi. Je pense que j'ai toujours essayé de créer une proximité avec les gens, que ce soit mes professeurs, mes équipes, mes amis, les parents de mes amis. C'est vrai que j'ai toujours aimé créer la proximité avec les gens, surtout les plus âgés. D'ailleurs, mes copains sont souvent plus âgés que moi, entre 5 et 15 ans de plus que moi, parce que j'aime apprendre des autres et comprendre des autres, les erreurs, les éviter, etc., etc.
Et pour toi, cette enfance-là, ça a créé ce moteur qui te rend super ambitieux et qui te permet de travailler comme tu travailles?
Bah oui, je te dis, quand tu perds tout du jour au lendemain, la réalité, c'est que sur le coup, ça se passe et t'es emporté par la machine administrative et tu peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. On te dit, voilà, ça c'est une assistante sociale, Jonathan, t'inquiète pas là, elle va s'occuper de toi, tu vas être placé dans une famille d'accueil, tu vas pouvoir continuer tes études, tout va bien se passer. En fait, rien ne se passe comme prévu. Hein. Évidemment, je me retrouve dans une cité en banlieue parisienne, cité HLM, littéralement. Je me retrouve en ZEP. Mais tu vois, c'est difficile, tu perds toute ton orientation à Paris, tous tes copains, ton truc, tu reprends le collège à un moment pas spécialement opportun, enfin c'est compliqué. Surtout avec le passé, ce qui est marrant, c'est que J'ai vécu cette période assez cachée en le disant pas trop dans mon entourage parce que j'en avais un peu honte, à part mes amis extrêmement proches.
T'avais honte de quel aspect ?
T'es en famille d'accueil, quoi. C'est pas. Les enfants peuvent être durs, tu vois. Ça peut être difficile de leur raconter ça au collège, au lycée.
C'est clair.
C'est pas facile. J'avais pas envie d'être jugé là-dessus. Et c'est qu'il y a que quelques années, il y a une quinzaine d'années où je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Enfin, il y a plutôt une dizaine d'années. C'est pas grave, fais-en une force, en fait. Fais-en une force. Et donc, j'ai repensé à toutes ces époques, vers 22 ans, 21, 22 ans. J'y ai repensé et je me suis dit, mais c'est pas grave. Prends pas l'injustice. Ouais, bien sûr, c'est injuste. Il y a plein d'injustices dans la Terre. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu naître sans bras, sans jambes. Ça arrive à certains. C'est injuste. Est-ce qu'il faut se plaindre tout le temps ? Non. Mais en revanche, fais-en une force. Prends tout ce que t'as perdu, tout ce que t'as vécu, tous les trucs qui t'ont blessé, sans le dire sur le coup, prends-les et fais-en une force.
Et ça veut dire quoi, en faire une force pour toi ?
En faire une force, c'est faire plus que les autres. Tu vois, à 18 ans, bah, faut payer ses études, il faut se débrouiller, il faut payer son appart. Moi, ma mère pouvait pas s'occuper de moi. Personne pouvait s'occuper de moi pour rien du tout. Et donc, je me dis, bah, on va faire une force. Donc, je vais bosser, je vais essayer de gagner des sous rapidement. Donc, j'ai fait tous les petits boulots possibles et imaginables à ce moment-là. Ensuite, c'est comment gagner un petit peu plus. Donc, rapidement, je me dis, attends, moi, j'adore l'immobilier, je suis un passionné d'immobilier.
Qu'est-ce qui te plaît dans l'immobilier ?
J'aime l'architecture. T'as pas vu, mais quand je suis arrivé là dans ton studio, j'ai regardé partout. Je regarde les moulures. J'ai déjà repéré à peu près les mètres carrés. Le parquet point de Hongrie, tout ça.
Tu l'as estimé ?
Non, mais je suis passionné, quoi. Ouais. Tu vois, je le fais pour le coup
naturellement
et je repère tout, quoi. Et je me dis, ce qu'il faut, c'est faut que j'achète un peu d'immobilier, faut que je mette de côté, faut que je sécurise. Parce que finalement, la seule chose qui restait à ma maman quand elle a tout perdu, c'était son appartement. C'était le seul truc qui lui restait. Je me suis dit, en fait, il faut que j'aie de l'immobilier. Et donc, je me rends compte que il faut de l'argent pour faire des prêts. Et donc, je me dis, en revanche, j'ai un biais, c'est que je suis étudiant et qu'en fait, on prête aux étudiants. Et en plus, j'avais des jobs étudiants qui me rapportaient un peu de sous. Et donc, je commence à acheter des petits appartements sans des crédits étudiants. Ça marche bien, vu qu'à l'âge de 22 ans, 23 ans, j'ai fait plus de 10 crédits étudiants, acheté pas mal de petits biens que je loue. Donc, du coup, je vis plutôt très bien pour un étudiant. Je vis plutôt très bien parce que j'ai des belles rentrées d'argent. Je peux me permettre plus que même mes copains qui sont issus de grosses familles et qui ont des parents qui leur donnent plus que ce dont ils ont besoin.
Mais du coup, avec du recul, est-ce que tu considères qu'ils ont de la chance ?
En fait, la chance, c'est pas ça, la chance. Au contraire, je dirais que certains, du coup, n'ont pas exploité tout leur potentiel. Quand t'es pas au bord du gouffre,
c'est facile, ouais.
Tu sautes pas. T'apprends pas à sauter. Et moi, j'ai appris à sauter. J'ai appris à sauter très tôt, j'ai appris à prendre des risques très tôt. Et à pas me poser la question de à quoi va ressembler le lendemain. Tu sais, il y a toujours cette image de l'entrepreneur que j'ai moi en tête qui est, il doit traverser un océan. Et je pense toujours à mes copains qui, si tu dois traverser l'océan, et la première chose qu'ils se disent, c'est mais comment je fais si ça va pas pour revenir en arrière? Et tu vois, moi, cette question, je me la pose pas. Quand je commence à nager et que j'y vais et je me dis on va faire ça, je regarde pas derrière moi. La seule chose auquel je pense, c'est comment c'est de l'autre côté, tu vois. Et je pense que c'est la grande différence avec les personnalités qui ont vécu des choses un peu difficiles, qui ont pu ou qui ont pas eu dans leur jeunesse tout ce qu'ils auraient aimé avoir, tu vois.
Oui, parce que c'est pas forcément qu'une question de finance. Ça peut être t'as vécu la perte d'un parent,
qui affecte envie d'aller plus loin.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours dit j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'aller très loin, et je vais aller.
Tu vas aller très loin.
Et Olivier, mon associé, qui est un gars formidable et qui m'a beaucoup drivé. Dans ma vie, qui m'a beaucoup poussé, qui m'a beaucoup dit « Ah, c'est pas bien, ça, si, ça. » Tu vois, il comprendra ça, un peu, ce côté. Et Jonathan, c'est un fou, quoi. Je suis un peu, tu vois, je pars un peu dans tous les sens. Je suis extrêmement sur beaucoup de sujets en même temps. J'adore être sur plusieurs sujets en même temps. C'est ce qui m'excite. Donc, du coup, ça, évidemment, ça crée une personnalité un peu où, trouble de la concentration, quoi. Mais en fait, je suis très concentré, mais sur beaucoup de sujets en même temps. Et ce qui peut parfois être difficile à gérer, comme il peut me dire Olivier souvent.
Tu peux raconter un petit peu les galères que vous avez rencontrées. Il y en a forcément eu plein, mais des grosses galères que vous avez rencontrées entre le début d'Aircall et maintenant.
L'histoire d'Aircall est pleine d'embûches, quoi. On, en fait, vu qu'on est quatre cofondateurs, aucun n'était vraiment entrepreneur avant. Alors moi, si, tu peux dire, j'étais entrepreneur, je gérais des appartements, des choses, etc. Pour mon compte, finalement. Mais c'est pas l'entrepreneur dans la tech, et c'est très différent.
Oui, t'avais pas d'équipe.
Ouais, j'avais pas tout ça. Je me débrouillais un peu à la mano, quoi, tu vois. Et les erreurs n'ont pas été trop sur les équipes, mais plutôt sur la construction du produit. Donc, en fait, et tous mes clients qui m'entendent s'en souviendront, tous les clients qui ont testé Aircall avant 2018 te diront « Ouh, ça fonctionnait quand même pas très bien. En fait, on a construit très vite un produit. On avait une idée. Et l'idée, c'était de dire la téléphonie d'entreprise, les call centers dans les entreprises, ça doit être simple à être mis en place. Ça doit s'intégrer à l'intégralité des outils métiers que l'entreprise utilise. Ça doit apporter de la valeur. Et en fait, c'est un phone system productif. Tu vois, c'est la téléphonie productive, AirCall. Donc ça, c'est l'idée. Sur le papier, c'est canon. C'est ce dont le marché avait besoin. C'est ce dont même le marché attendait ça. Puisque de plus en plus d'outils commençaient à se digitaliser. De plus en plus de les CRM ont passé du on-premise au SaaS, cloud. Et donc finalement, on se disait, mais il faut pousser l'intégralité des données, des appels dans les CRM. Donc ça, tu vois, le concept, il est là. Sauf que dans la pratique, et même je viens de faire la même erreur qu'on a fait il y a 7 ans, à aucun moment je t'ai parlé de la voix, de la qualité de la voix, de la capacité à avoir un bon grain de voix, à ce qu'on entende bien, que la connexion Internet soit juste pour que ça fonctionne bien. Tu vois, je t'en ai même pas parlé encore une fois. Parce qu'en fait, notre concept, c'est un logiciel, c'est un software.
Mais ce que les clients attendent, enfin, en tout cas là où ils vont être hyper exigeants.
La commodité, la voix, la qualité de la voix. Et donc, on va dire jusqu'en 2018, ouais, jusqu'à fin 2018, une galère sans nom. Je me souviens de faire des appels, on est en 2014. Parfois, on se fait des calls avec Oli, et on s'appelle avec AirCall pour tester. Je comprends rien à ce qu'on raconte, quoi. Je comprends pas, j'entends pas. On entend vraiment du glou glou glou. c'est horrible. Et je sais qu'on a déjà à ce moment-là 500, allez, 300, 400 clients, quoi. Qui toute la journée font leur call avec ça. Et ça fonctionne pas. C'est horrible parce que, à la fois, tu sais que t'as pris le bon chemin sur le logiciel parce que t'as une traction. On va très vite. On est passé de 0 à 1 million d'ARR en même pas un an.
Donc ça te montre qu'il y a un besoin, que les gens ils ont un problème et qu'ils veulent le résoudre. Mais vous n'arrivez pas à le résoudre.
Bah, en partie. En tout cas, on n'arrive pas à résoudre la partie vanille de notre produit qui est la voix. Tu vois.
Et pourquoi ils restent à ce moment-là, les clients?
Ah, on en perd beaucoup. Hein. Mais malgré tout, on croit vite. Je pense que si on avait réglé le problème de la voix dès le début, aujourd'hui, on serait bien plus loin. On serait bien, bien, bien plus loin.
Si vous étiez amené à revivre une prochaine startup après avoir IPO et peut-être sorti de la boîte, je ne sais pas quel est ton plan, quel est votre plan, qu'est-ce que vous changeriez pour réduire cette période, en fait? Le temps que vous avez mis, finalement, entre 2014 et 2018, c'est 4 ans, c'est ça?
Mmh.
Ouais, qu'est-ce que vous feriez de différent pour une prochaine expérience?
Déjà, je prendrais pas un business de voix, la base. La voix, c'est très compliqué. Les gens qui veulent se lancer dans la voix et qui veulent faire ça, même vidéo, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et encore, la vidéo, c'est plus simple parce que c'est de l'app to app. Donc, c'est deux apps qui parlent, qui se rencontrent sur Internet. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus simple. La voix, la VOIP, ce qu'on appelle, être la vraie complexité, c'est que tu pars d'Internet, tu vas sur le réseau téléphonique et tu redescends sur un téléphone. Et en fait, c'est ça la vraie complexité. Et donc, nous, on y allait un peu à l'arrache, hein, soyons honnêtes. Mais en fait, on faisait confiance à nos providers, etc. Mais en fait, il y avait plein de trucs qu'on ne maîtrisait pas, notamment des codecs, une manière de construire le produit, puisqu'on n'avait pas l'expérience dans la voix. Et je me souviens encore d'entrepreneurs qu'on avait rencontrés à San Francisco au début d'AirCall, où on leur expliquait notre concept, où ils rigolaient, quoi. Les gars, vous allez au suicide.
Ils avaient conscience, eux, de la complexité.
Ouais, parce que venaient de ce monde-là. C'est des concurrents, d'ailleurs, eux. C'était des concurrents déjà qui avaient 3-4 années d'avance. Il me disait n'y aller surtout pas. Mais quand il m'a dit n'y aller surtout pas, je me suis dit ok, il faut y aller en fait. Parce qu'il veut pas qu'on y aille et il avait pas compris. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on les rattrape quoi. Et ils avaient 4 ans d'avance. Aujourd'hui ils ont même pas un an d'avance. On est en train de les talonner et c'est pour ça que les investisseurs nous font confiance et qu'on arrive à convaincre et à accélérer comme on a accéléré toutes ces années parce que finalement on est passé de 0 à 1 en un an, on a fait de 1 à 3 en un an, de 3 à 9 en un an encore et après on a enchaîné, on a fait x2 tous les ans depuis le début d'AirCall.
Alors juste pour essayer de comprendre parce que tu vois typiquement on peut avoir un gros frein.
Comment tu gères un peu la complexité?
Ouais, qu'est-ce que tu te racontes à toi-même et à tes équipes parce que t'es pas seul du coup à ce moment-là.
Vous avez, bien sûr, ouais, on commence à avoir des équipes, ouais.
Qu'est-ce que tu leur racontes? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce que tu te racontes pour continuer de vendre alors que tu sais qu'ils vont arriver et peut-être 50% d'entre eux ou plus vont très vite partir en fait. Comment ça se passe?
Déjà, transparence. On a toujours été ultra transparent chez AirCall. Tout le monde connaît notre chiffre d'affaires au moment T. Toujours. Et en effet, ouais, on recrute, mais on leur vend la vision. Et d'ailleurs, mes premiers sales sont encore chez moi aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui est parti. Ils partent pas. Les bons sont toujours restés avec nous parce qu'ils ont toujours cru. Et en effet, c'était difficile. Et ils disaient, non mais John, ça marche pas. Et je dis, je sais. On se dit, c'est la connexion Internet. En fait, on cherche où est le problème. En fait, à ce moment-là, on sait pas vraiment où est le problème. On sait juste que ça fonctionne mal Et on se dit, en fait, la problématique, c'est la connexion Internet. C'était le cas et pas le cas. C'était le cas dans certains cas, mais ça n'était pas dans d'autres cas. Et le plus fou, je vais même te dire, c'est que 2014-2017, mes commerciaux me disent, John, en fait, on ne peut pas faire de cold calling avec AirCall. Ça ne fonctionne pas. Quand j'appelle le client, il ne m'entend pas. Comment je vais lui expliquer que je vends un téléphone, tu vois? Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'est dur. Tu leur dis, bah écoute, fais comme tu peux, quoi. Fais-le avec ton téléphone portable, on te remboursera les frais. Tu vois, c'est difficile. Tu vends un outil, tu sais que consciemment, ça ne fonctionne pas très bien. Et en fait, à force de travail, à force de compréhension de notre marché, à force de tests techniques dans tous les sens, mi-2018, fin 2018, on réussit notre pari et on sait qu'il n'y aura plus de problème de qualité à ce moment-là. Mais ça a été dur. Tu vois, je vais même te dire, à un moment, pendant un mois, on décide d'arrêter de vendre. Avec Olivier, on se regarde, on dit en fait, c'est à quoi là? On rajoute des clients et le verre est percé en fait. Les gens partent, les gens se plaignent toute la journée, des mails, le truc, le service client, il est submergé. Ça sert à rien qu'on vende. Pourtant, on a toujours cette traction de malade. Mais ça sert à rien de vendre. Et donc on arrête. On dit à tout le monde, et là, à ce moment-là, on est beaucoup. On est 40 personnes, 45 personnes. On regarde les 45 personnes, on dit, stop selling. On ne vend plus. Là, c'est un coup de frein monumental. T'as les commerciaux, tu leur dis, en fait, tu vas plus vendre. On va appeler chaque client maintenant. À ce moment-là, on a 2-3 000 clients quand même. On va appeler chaque client et on va lui demander qu'est-ce qui va pas. Est-ce qu'il est content d'AirCall, pas content? S'il est pas content, on essaie de comprendre pourquoi. Et on va dédier du temps à la main, chaque personne, pour essayer de les faire avancer, de leur faire fonctionner le produit et de laisser du temps à la tech pour pouvoir fixer les problèmes. Tu vois, là, t'es dans le dur, là. Là, je peux te dire que t'es vraiment dans le dur.
Comment tu le vis, toi, émotionnellement?
À la fois, je me dis que c'est pas la bonne décision, parce que je me dis c'est complètement dingue de faire ça. Mais à la fois, je me dis c'est peut-être ça l'entrepreneuriat, en fait. Revivre des traumatismes sans fin, finalement.
C'est stressant pour toi?
C'est hyper stressant. C'est un peu, je me souviens encore de quand on l'annonce, quand je me rassois à mon bureau, que toutes mes équipes me regardent, du coup, on fait quoi? Je leur dis, attends, c'est parti, on va faire des listes maintenant et on va appeler les clients. Et ça va bien se passer. Un mois, c'est très très long.
Bah, surtout pour des sales.
Ouais, pour toute la boîte en fait. C'est extrêmement long. Tu vois, la croissance à ce moment-là, bah, et des clients qui viennent demander des free trial, on s'occupe d'eux, mais.
Surtout que vous n'êtes pas rentable à ce
moment-là. On n'a pas été rentable du tout, non, à ce moment-là. D'ailleurs, on n'est toujours pas rentable, mais ce n'est pas le problème. C'est plus qu'à ce moment-là, on a levé déjà des fonds. Il faut quand même qu'on ait une croissance, donc on explique à notre board, ouais, on va lever le pied là. Jusqu'à ce qu'on fixe nos problèmes.
Et ce mois à appeler les clients, est-ce que ça a aidé à résoudre les problèmes?
Énorme. En fait, avec le recul, ça a été une super décision. Ça a été de dire, OK, maintenant, on va catégoriser les problèmes. On va chercher les patterns et on va les fixer un après les autres. Fixer chaque bug. Parce qu'il n'y avait pas que la qualité à ce moment-là, il y avait les bugs, etc. Parce que, en fait, dans le software, tu as un truc, c'est qu'il faut du temps pour construire quelque chose qui fonctionne bien. Tu vois, en fait, quand tu construis un software, et j'ai toujours cette image, tu vois, on va rapporter ça à l'immobilier encore une fois, toujours cette image de la maison, en fait. L'entrepreneur, il construit une maison. Au début, il construit une maison. Après, il construit un petit immeuble. Après, il construit une tour. Après, en fait, il vient de construire quelque chose que personne d'autre a construit avant, quoi. Une énorme tour. Et en fait, le problème, c'est que tu commences avec ta maison, et les fondations d'une maison, bah, si tu construis un immeuble sur la maison, ça tient, mais pas trop, quoi. Et si tu construis un plus gros immeuble sur une maison, tiens, encore moins. Et nous, en fait, on allait tellement vite. Et tu passes de 0 à 1 en un an, de 1 à 3 millions de chiffre d'affaires en un an encore. Après, de 3 à 9, ça va extrêmement vite. La tech ne suit pas à ce moment-là. C'est difficile pour eux. Eux, on leur a dit, construisez une maison.
Et vous cherchez justement des nouveaux ingénieurs qui peuvent résoudre ça?
Ouais, bien sûr, on cherche de nouveaux ingénieurs. On prend les meilleurs qu'on trouve sur la place. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on a aussi beaucoup de jeunes. Mais des jeunes hyper ambitieux qui se battent pour AirCall. On n'a pas eu d'attrition chez AirCall nos 4 premières années. Nos 4 premières années, on perd personne. Parce que, en fait, c'est la boiler room. C'est la salle des marchés. Les techs sont dans la salle des marchés. Tu vois, c'est un peu un clin d'œil à mon background. Où j'ai fait pas mal bosser en salle des marchés pendant mes études en tant que stagiaire. Tu vois, moi, j'aime ça, le bruit, j'aime le bruit. J'ai besoin de vivre, ça me fait vibrer le bruit. Ça me fait vivre, ça me fait avancer. Et on perd personne. Mais à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on catégorise, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fixe les bugs. Tu vois, c'était la bug war, on appelait ça. On trouve le problème, on le corrige. Et hop, et hop, et hop. Il se retrouve à un moment, je me souviens, avec 312 tickets. Je me souviens, 312 tickets à fixer. Il y a une équipe tech de 15 personnes à ce moment-là. 312 tickets, 312 bugs, 312 trucs, tu vois. C'est des commerciaux qui catégorisent les bugs, donc c'est pas non plus le truc le plus précis, mais en tout cas, ils sont là, les trucs. Et donc, c'est un mois de fixing où ça bosse vraiment jour et nuit. Jour et nuit pour fixer tous ces problèmes et pour après se dire, on réouvre, on se remet à vendre. Et c'est reparti pour un tour. Et donc, on le fait, ça, et en fait, ça fonctionne.
Et tu parles de... Vous avez recruté plutôt des juniors pour des questions de tarifs. Est-ce que ça aurait aidé de recruter des seniors plus chers pour résoudre ?
À ce moment-là, je pense pas, parce que le senior, déjà, est-ce qu'il vient dans une boîte qui n'a pas les moyens de payer beaucoup ? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de moyens. On fait avec les moyens du bord. Ça aurait sûrement aidé, mais à ce moment-là, c'était trop tard pour le senior. À ce moment-là, il fallait juste délivrer, s'organiser. Tu vois, on avait juste construit une maison et on mettait un petit immeuble sur la maison, quoi. Donc, c'était compliqué, quoi. C'est un peu la surélévation de la maison. Et à ce moment-là, en fait, si je revenais en arrière, je te dis honnêtement, je change rien à l'histoire. Peut-être, au début, on fait un poil plus attention à la qualité des appels. Mais et encore, ça fait partie de notre ADN. C'est parfois difficile parce qu'on pâtit encore de cette mauvaise réputation de qualité d'appel chez certaines personnes qui ont testé AirCall en 2014, 2015, 2016.
Et comment vous la retravaillez, cette image ?
On l'a retravaillé déjà, c'est communiquer beaucoup dessus, faire beaucoup parler nos clients pour nous.
Quand vous communiquez uniquement, on a une bonne qualité de conversation, ou est-ce que c'est avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça pour qu'il y ait un contraste très clair dans leur tête ?
Moi en tout cas, j'ai toujours communiqué avec l'avant et l'après. Et évidemment, aujourd'hui on communique beaucoup sur notre qualité d'appel parce qu'aujourd'hui pour le coup, on délivre une qualité d'appel qui est bien supérieure à n'importe quel opérateur. Je suis très fier de ça, on a une voix qui est crystal clear, on a des codecs, on a fait un travail monstrueux pour en arriver là. Et aujourd'hui, et encore on me le dit chez les clients qui m'en parlent ou des clients copains qui ont des boîtes qui sont clients chez moi, ils me disent c'est hallucinant quand on se parle sur AirCall, on a l'impression que la personne est à côté de nous. Ce qui n'est pas le cas avec un opérateur classique la qualité de la voix n'a pas trop évolué au fil des années, mais c'est suffisant. En tout cas, on est allé loin dans la qualité de la voix et d'avoir un truc HD, quoi, haute définition. Mais en revanche, moi, je communique énormément sur le passé parce que je veux pas qu'on garde cette mauvaise réputation d'AirCall. On a fait des erreurs, c'est évident.
Mais c'est
le parcours de l'entrepreneur. Ouais, c'est plus le cas. Et régulièrement, je rencontre des entrepreneurs, que ce soit à des meet-up d'entrepreneurs ou même à une soirée, un gars qui me parle, il me fait « Ouais, j'ai testé AirCall. Oh là là, ça fonctionnait vraiment pas à l'époque. » Je suis là, attends, réessaye, tu verras.
En termes de pricing, comment vous avez défini le pricing du produit ?
Alors, il a beaucoup changé au fil des années. Au début, on était vraiment pas cher. On était à une dizaine d'euros tout au début. De toute façon, ça fonctionnait pas trop, donc les gens voulaient pas trop payer. Non, mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer de... Déjà, on va regarder quelle est la willingness to pay, tu dis en anglais. Donc, combien les gens sont prêts à payer.
Par utilisateur.
Ouais. La valeur du produit.
Et ça, vous le faites comment ? Comment vous le testez ? Des A-B testing ?
Ouais, pas mal d'A-B testing. Et puis surtout, on regardait aussi un petit peu le traditionnel, la téléphonie traditionnelle, comment elle fonctionne. On regardait un petit peu la concurrence, où est-ce qu'elle est. Tu vois, il y a deux types de produits dans la téléphonie d'entreprise. Tu as les outils plutôt call center, qui vont être à une centaine d'euros par utilisateur et par mois.
Donc tu payes aussi à la ligne ?
C'est par utilisateur souvent, et tu rajoutes en plus la ligne.
D'accord.
Mais tu vois, les outils de call center classiques, assez avancés, c'est à une centaine d'euros par utilisateur et par mois. Et il y a un autre business qui est plutôt la téléphonie traditionnelle, je parle des concurrents là, qui est à entre 15 et 20 euros par utilisateur et par mois.
Okay.
Et nous, on s'est dit, nous, on est entre les deux. En fait, t'as le UCAS et le CICAS, et en fait, on le met dans un bucket, nous. On croit au fait qu'en fait, tu peux être les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est pricé entre 30 et 50 euros par utilisateur et par mois en fonction des attentes des clients. Tout ça en ajoutant énormément de valeur à nos clients. Le UCAS classique, donc la téléphonie traditionnelle, apporte assez peu de valeur. Ça te permet de passer et recevoir des appels. La partie call center, CICAS, donc des boîtes qui vendent des trucs à 100 euros, apporte beaucoup de valeur parce que c'est intégré aux outils métiers, etc. Et donc AirCall, nous, on sait faire les deux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, vu qu'on est 100% cloud, on est capable de mettre tout en place en quelques minutes, ce qui n'est pas le cas des CICAS, où ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de développement, où c'est très compliqué à mettre en place. Et la téléphonie traditionnelle aussi, c'était très compliqué à mettre en place. Puisque c'était des postes téléphoniques, et même quand c'est cloud, ça ne se met pas en place aussi simplement. Et donc nous, on a essayé de réconcilier les deux mondes en disant on va faire un outil qui est la téléphonie, productive téléphonie, Et c'est de dire, on va s'intégrer à tous les outils métiers que l'entreprise utilise. Ça va être le CRM pour une équipe commerciale, ça va être le helpdesk pour une équipe de service client, ça va être l'ATS ou l'outil pour une équipe de RH, etc., etc. Et donc, avoir une panoplie de produits avec lesquels on s'intègre. Une partie a été construite par nous. La majorité, la grande majorité a été construite par nos partenaires software. Donc, c'est des logiciels qui viennent à nous, qui disent en fait, moi je veux créer une intégration avec AirCall.
Donc par exemple, là tu parlais d'ATS, ça marche comment l'intégration vous avez, j'imagine, Greenhouse en a un.
Ouais, ça pourrait être un Greenhouse. On n'a pas Greenhouse en particulier, mais on en a d'autres. Mais par exemple, l'intégration, ça serait de dire tes équipes RH qui passent beaucoup d'appels avec les candidats, qui appellent les candidats, bah, c'est de dire maintenant quand tu fais un call avec un candidat, l'appel est enregistré, il y a le transcript. T'as un doute sur le candidat, tu veux réécouter l'appel, bah tu peux le réécouter. Le candidat un jour t'appelle, hop, tu vas directement sur sa fiche, tu vois ce que vous vous êtes dit, t'as toutes tes notes, tu te souviens quand tu l'as appelé, combien de temps vous vous êtes parlé. S'il y a un ancien RH qui lui a déjà parlé il y a 6 mois, et ce RH est parti, bah tu recommences pas la conversation à zéro, tu peux réécouter l'appel.
Et ça marche comment là, juste pour imaginer, là où par exemple, t'as l'ATS, un calendrier, un Zoom, on va dire un truc assez classique.
Ouais.
Du coup, tu vas enlever calendrier et tu vas enlever Zoom.
Non, parce que Calendly, c'est pour ton calendrier, donc c'est pour...
Mais comment,
pour
par exemple, comment le call il va être booké entre ton ATS ou t'as ton candidat et tu veux lui envoyer...
Tout se passe par le numéro. Dans l'ATS, tu vas avoir le numéro du candidat.
Ouais. Okay.
Dès lors qu'il va y avoir un appel sur ce numéro, appel sortant, entrant, ce que tu veux, c'est parti, on pousse toutes les informations, AirCall pousse toutes les informations dans l'ATS. C'est parce que le numéro est dans l'ATS, donc le numéro du candidat
D'accord. Est
dans l'ATS, AirCall lui détecte que ce numéro, il est dans l'ATS. C'est-à-dire que nous, on va taper dans les bases de données de toute la panoplie des outils que l'entreprise utilise et on dit, hop, ce numéro, moi, je l'ai dans l'ATS. Donc, ce numéro, boum, je vais pousser.
Ok, et donc tu te ramènes la
donnée. S'il était dans le CRM, parce que, en fait, ce gars-là est un client, hop, je pousse aussi dans le CRM.
L'enregistrement, il se fait lié au fait que la personne, je vais l'appeler avec mon numéro AirCall ou elle va m'appeler.
Bien sûr. Tout est lié à ça.
Et en termes d'ailleurs de droit, tu parlais d'appel enregistré, ce qui est très pratique pour les recrutements parce que tu vas pouvoir réécouter le call de ton recruteur.
Tu dois prévenir. Ouais, toujours. C'est obligatoire, que ce soit pour les appels entrants ou les appels sortants. Donc, appel entrant, nos clients en général mettent un message, dire cet appel va être enregistré à des fins de formation. Si vous voulez ne pas l'enregistrer, évidemment, dites-le nous. Et ils peuvent le désactiver l'enregistrement si la personne refuse de l'enregistrer.
Et du coup, en termes d'efficacité d'ailleurs, est-ce que tu as des stats ou des comparatifs entre le fait d'avoir un message vocal qui dit voilà, cet appel va être enregistré à des fins commerciales et que le sales dise en début d'appel est-ce que c'est OK pour vous que...
Ouais, non, on n'a pas vraiment fait de statistiques là-dessus. En tout cas, les deux sont possibles. La personne peut dire je veux taper dièse ou taper whatever. La personne est au courant qu'il a tapé donc. Ça sera désactivé au début de l'appel ou il peut dire prévenez-nous si vous voulez, et le commercial quand il appelle il peut dire est-ce que ça gêne si cet appel a été enregistré ou le service client, c'est plutôt dans le cas d'un service client d'ailleurs.
D'accord.
Et l'idée c'est plutôt de se dire comment t'apportes de la valeur au client, et nous la valeur c'est là qu'on est allé la chercher, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de développer des outils d'intelligence artificielle appliqués à la voix qui te permettent de transcrire les appels dans leur totalité et d'après de faire des recherches un peu intelligente sur les appels et dire j'en sais rien, je veux un commercial, je veux savoir quand il parle du prix. Pendant une démo, je veux aller taper dans la démo qu'il vient de faire et dire ok, dès lors qu'il dit, il mentionne le prix, j'ai envie de regarder. Dès lors qu'il mentionne un concurrent, je veux regarder ce qui s'est dit en fait, tu vois, en tant que soit le manager, soit même le commercial, pour se dire ok, je veux revenir en arrière et être capable de changer le futur finalement. Et donc de dire en fait, j'ai dit ça, j'aurais jamais dû dire ça, ça avait pas de sens.
Trop bien ça pour l'apprentissage.
Ouais, c'est hyper bien.
Vous avez la vidéo ou pas? Et est-ce que vous voulez la mettre?
On va la mettre, ouais. Et pareil, appliqué à la productivité. Donc, tu vois, on va pas être un Zoom, un copycat de Zoom, ça n'a aucun sens, qui est faire tous tes meetings, etc. Non, nous, ça, on ira plus loin. On va faire quelque chose qui va être un outil de vidéo productif, que ce soit pour les services clients.
Tu veux dire quoi? C'est quoi la distinction productif et Zoom, par exemple?
Bah, Zoom, c'est une commodité. Tu vois, c'est un peu la différence entre... la téléphonie traditionnelle, donc ton portable, finalement, tu fais ton appel, c'est une commodité, t'appelles, tu reçois un appel, point. Et un outil comme AirCall qui pousse tes appels, qui tape dans tes bases de données, qui te donne les infos, etc. Bah, Zoom, c'est ça, tu organises ton call et on se parle. T'as un doute sur ce que t'as dit, dans ton CRM, tu te souviens pas, t'es pas marqué combien de temps t'as passé en Zoom avec le gars. Tu l'as pas, ça. T'as pas combien de temps t'es passé, t'as pas l'enregistrement de la vidéo poussée dans Zoom. Zoom, il t'enregistre ailleurs la vidéo. Il faut que tu ailles la chercher dans les.
Ça serait ouf, typiquement.
Bah voilà, bah c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on travaille. Ça va être également appliquer la vidéo. On a souvent oublié la vidéo dans les services clients. Aujourd'hui, un service client, c'est hyper froid. Tu appelles un service client, c'est au téléphone. Tu as un problème, j'en sais rien, sur ta box. On te dit, alors branche, débranche le fil jaune.
C'est horrible.
Voilà. Bah imagine maintenant, je passe sur la caméra, montre-moi. Hop, ouais, c'est exactement là qu'il faut toucher. Tu vois, on parle d'une box, mais tu peux regarder n'importe quoi. Peut-être, j'en sais rien, des problèmes de travaux, t'as acheté une peinture, n'importe, t'as acheté un meuble, t'arrives pas à le monter, au téléphone, c'est compliqué, quoi.
Tiens, question, toi qui es très bon dans le côté sales, les appels que vous faites ou que tu fais, tu les fais que en voix ou tu les fais voix et vidéo?
Alors, ça dépend. Il y a le cold calling, donc, où t'appelles les prospects. Évidemment, là, c'est en voix, tu vas pas l'appeler en vidéo, tu peux pas, faire un FaceTime avec le gars, quoi. Salut. Non, et puis après, tout ce qui est démo, évidemment, se fait en vidéo. Et d'ailleurs, j'insiste, j'ai toujours insisté, ça a été difficile au début, c'est toujours de mettre la vidéo. Il y a 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, c'était pas naturel pour les gens de mettre la vidéo.
Pour le client, tu veux dire.
Pour le client et même pour nos commerciaux, qui parfois se disaient, ouais, j'ai pas spécialement envie de mettre la vidéo. Je disais, mais.
Le lien, il était malade. Bien.
Mais bien sûr, il faut mettre la vidéo. Et c'est vrai que, même je vais te dire, il y a 6-7 ans, c'était sur Skype à l'époque qu'on faisait ça. Et donc c'était marrant, c'est-à-dire que quand on se planifiait une vidéo, il fallait que il m'envoie son nom sur Skype. Je devais rajouter la personne sur Skype et après me débrouiller. Après on faisait notre vidéo, mais c'était pas naturel. Tu rentrais vachement dans l'intimité de la personne en le rajoutant sur Skype. Je me souviens que j'avais, je sais plus, 700 personnes sur Skype à un moment. Ça n'avait aucun sens. Et puis, tu sais, je voyais leur update et tout. C'était particulier. mais en tout cas, toujours, ouais, voir la personne, toujours être, se parler comme si on était face à l'autre. Et d'ailleurs, je toujours poussais qu'on aille rencontrer les clients, du moins quand c'est pour la France, même si la France est 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais en tout cas, d'aller les voir autant que possible, surtout quand c'est des clients plutôt gros. Et moi, tous mes premiers clients, je suis allé les voir pratiquement, quoi. On va dire les 200, 300 premiers clients, j'allais les voir et j'adorais, quoi. À l'époque, on était dans le sentier, c'était un peu, tu vois, c'était le début. C'était cool d'aller voir les clients. Et c'est marrant, même un de mes premiers clients qui a un peu ouvert quelque chose chez nous, la boîte de Pandore, parce qu'il avait 20 utilisateurs, pour nous, c'était exceptionnel, et qui est devenu investisseur par la suite, quoi.
Donc là tu viens d'avoir une proposition, c'est ça?
Ouais, juste avant la levée de fonds.
Ok, de combien? Tu peux disclose ou pas?
Ouais, je peux dire le montant, je pourrais pas dire qui, mais en gros, on a une offre à plus de 850 millions.
Ça fait quoi déjà recevoir ça?
Tu crois pas, tu te dis waouh. Et après, tu réfléchis quand même 2 secondes, et après, tu dis non.
Pourquoi tu dis non?
Parce que mon ambition va plus loin, notre ambition va beaucoup plus loin. Si je vendais aujourd'hui, j'aurais l'impression d'avoir accompli qu'une partie, et donc de dire, bah, en fait, j'ai fait tout ça pour l'argent. Et. On le fait pas pour l'argent. On le fait pour changer les choses.
T'as une hésitation quand même ou pas de se dire, putain, c'est 850 millions.
Ah oui, bah tu te dis, il y a vraiment là une personne qui veut nous racheter près d'un milliard, quoi. C'est incroyable. Après, tu réalises la valeur de ce que tu possèdes. Tu réalises qu'en fait, t'as créé quelque chose qui vaut beaucoup. Et après, tu dis, en fait, est-ce que j'ai accompli ce que je voulais accomplir? Est-ce que j'ai révolutionné dans le monde, la téléphonie d'entreprise? Tu te poses 2 minutes, on se regarde avec mon associé, avec Olivier, on dit non. On a encore tellement de choses à faire. On a accompli 10% de notre vision du produit. Il reste 90% à accomplir. Ça va être les meilleurs moments. C'est maintenant qu'on y va. Et donc, on a gentiment refusé en disant qu'en fait...
c'est pas tout le monde qui peut refuser 850 millions.
Ouais, c'est pas
c'est
tout
bon.
Le monde. Ouais.
C'est beau déjà.
On est peut-être fou, l'histoire le dira si on a été fou, mais j'ai une confiance absolue dans le futur et dans notre capacité d'exécution.
Il y a des gens qui t'ont dit réfléchis quand même, t'es sûr ou pas?
Bah bien sûr, évidemment. Bah tous mes copains m'ont dit vends. mais moi je me suis dit non. Et en fait, du coup, on a transformé toutes ces discussions. On était en levée de fonds en fait en parallèle et finalement, tu vois, on a closé notre levée de fonds, 120 millions de dollars. Sur une valeur supérieure à 1 milliard. Donc l'histoire déjà a dit qu'il fallait pas vendre à ce prix-là vu qu'on a été valorisé plus d'un milliard. Mais on en reparlera quand on sera à 10 ou même à 20, tu vois. C'est toujours ça, quoi. L'ambition, c'est t'apprends l'ambition avec les années, quoi. Voilà. Et plus tu parcours du chemin, plus tu vas à l'étape d'après. Et j'irai toujours à l'étape d'après. Je suis vraiment pas prêt de m'arrêter et on va y aller à fond. Et on va bien faire les choses jusqu'au bout.
Mais il y a un moment donné où tu veux vendre et sortir?
C'est pas dans mes plans. Peut-être, peut-être qu'un jour je sortirai, évidemment, peut-être. Mais ce jour-là, je le vois pas. Et si je sors, c'est que j'aurai l'impression d'avoir suffisamment contribué, avoir apporté ma pierre à l'édifice, pour que l'édifice avance très bien sans moi. Et ça arrivera un jour, inévitablement. Mais je le ferai surtout pour moi, à me dire, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire quelque chose peut-être plus grand, peut-être plus petit, quelque chose qui me plaît encore plus, tu vois.
Vu que t'as pas encore ça.
Mais j'ai pas encore ça, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je fais les deux choses qui me plaisent le plus au monde professionnellement, qui est la tech, téléphonie d'entreprise, et l'immobilier en perso, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis un homme comblé, quoi. Et donc, j'avance dans ce sens-là.
Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, t'as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.